me suis longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle,
c'est la fin du Féricom Club. Bye bye.
Des canons qui tueront demain si la guerre arrive. Que voulez-vous, que voulez-vous, faut bien qu'on vive. Et puis je suis aussi de ceux qui partiront pour les frontières, lorsque rougira dans les cieux l'aurore des prochaines guerres. Là-bas au canon, ennemis, qui seront les vôtres, mes frères? Il faudra que j'expose aussi ma poitrine d'homme et de père. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain si la guerre arrive. Que voulez-vous, que voulez-vous, faut bien qu'on vive. Ne va pas me maudire au toit qui dormira un jour peut-être. Ton dernier somme auprès de moi, dans la plaine où les bœufs vont paître. Boudant les petits grandiront, ne me maudissez pas au maire. Moi je ne fonds que des canons, ça n'est pas moi qui les fais faire. Moi je ne fonds que des canons, ça n'est pas moi qui les fais faire.
Thank you. Bonjour, il est 17h. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 13 décembre 2023. Vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire. Cette émission est toujours proposée par les passionnés du livre et de la lecture. Aujourd'hui, Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et notre invité Alexandre Antolin qui nous rejoindra plus tard pour son livre Une censure éditoriale, Ravage, de Violette Leduc, publié aux éditions Presse universitaire de Lyon. Deux fois par mois, le deuxième et le quatrième mercredi, de 17h à 18h30, nous nous retrouvons pour parler livres. Un petit moment d'anniversaire tout de même aujourd'hui, avant de laisser la parole à Fred. Il y a 2 ans, nous lancions, Fred et moi, cette émission le 8 décembre 2021. Nous sommes toujours là avec une équipe renforcée et surtout les auditrices et les auditeurs et tous les acteurs de la chaîne du livre qu'on a eu le plaisir d'inviter depuis 2 ans. Merci à vous. Avant de parler de nos lectures, Frédéric, des annonces, une annonce.
Oui, tout à fait. C'est dans le cadre du ciné de la commune, une projection qui aura lieu le 20 décembre 2023 à 20h à la librairie Publico. À partir de 20h, je l'ai dit, métro Oberkampf ou Faye du Calvaire. Alors le synopsis, c'est début du XXe siècle, dans un hôpital religieux, un groupe de jeunes internes en médecine fait une découverte anatomique qui pourrait bien changer l'ordre du monde. Dans leur projet révolutionnaire, ils convoqueraient l'aide de Voltairine de Clare en pleine réflexion sur l'action directe. Le film s'appelle Omerta, une fiction de Raphaël Bruya. Voilà, je repasse le micro à Francis.
Alors en plus de nous écouter, vous pouvez nous écrire, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, émission Au fil des pages. Premier temps de l'émission, pour alimenter le débat, Agnès, nous allons parler d'une dame qui s'affirma comme socialiste, en tout cas un temps de sa vie, et qui est plutôt connue comme féministe, affirmée là, clairement. Hein. Alors tu nous conduis dans la maison de George Sand et tu nous parles d'un de ses livres de sensibilité socialiste, justement.
Tout à fait. Tout d'abord, je vais vous raconter le spectacle de la salle à manger de la maison de George Sand, donc à Nohant. C'est dans le Berry, et pourquoi pas ne pas rendre visite à George Sand. Sa maison est accueillante. Elle est vaste, si vaste que nous nous limiterons à présenter la salle à manger de la maîtresse de maison. Nous vous laissons découvrir les autres pièces, cuisine, bibliothèque, cabinet de curiosité, sans oublier, bien entendu, le formidable jardin.
Alors, qui est George Sand ?
George Sand est le nom de plume d'Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, par mariage baronne du Devant, romancière, critique littéraire, journaliste, née en 1804 à Paris et décédée le 8 juin 1876 au château de Nohant, dans l'Indre. Elle compte parmi les écrivains les plus prolifiques, avec plus de 70 romans, 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, des contes, mais aussi des pièces, des théâtres, des textes politiques et enfin une foisonnante correspondance de 20 000 lettres.
Je crois qu'elle écrivait la nuit, d'ailleurs.
Elle écrivait en effet beaucoup la nuit et ne rejoignait sa famille ou ses invités que très tard dans la matinée, en effet. George Sand prend la défense des femmes, elle fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société aristocratique. Elle fait aussi scandale par sa vie amoureuse agitée, par sa tenue vestimentaire masculine dont elle a lancé la mode. Elle a dû pour cela obtenir une permission de travestissement. Elle choque aussi par son pseudonyme masculin qu'elle adopte dès 1829.
Je rappelle que la permission de travestissement était donnée par le préfet de police de Paris et que quelques femmes, comme par exemple Rosa Bonheur, la peintre, ont pu en bénéficier. C'est absolument hallucinant.
Elle a aussi une personnalité hors du commun. Elle provoqua aussi un scandale par sa demande en séparation de cordes avec son mari, Casimir du Devant, ou en fumant en public cigarette comme cigare. Elle est la seule femme du premier groupe d'écrivains du 19e siècle à vivre de sa plume en France. L'alphabétisation et l'industrialisation de l'imprimerie vont permettre au plus grand nombre de pouvoir lire. Et ce lectorat populaire et friand de romans qui permettent de rêver, de s'identifier et d'oublier leurs conditions misérables. Ainsi, je vous présenterai en fin de commentaire une de ses œuvres, La Ville Noire, rééditée aux éditions Le Temps des Cerises, Le Temps littéraire. Pour George Sand, la presse lui permet de diffuser les idées républicaines dans l'opinion publique et considère l'écriture comme une arme éducative et pédagogique. On raconte à la visite de sa maison qu'elle consacrait tous les jours du temps à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture à ses employés au domaine de Nohain. Elle donne la parole aux opprimés, aux pauvres et aux démunis. Elle milite pour l'indépendance des femmes et demande un droit de divorce.
Alors que se passe-t-il là dans la salle à manger de Nohain ?
Eh bien, cette salle à manger est meublée rustiquement, encadrant tout à fait avec l'élégance de l'époque. Autour règne une multitude d'objets, de tableaux, de meubles de style. Et où trône au plafond un somptueux lustre Murano de Venise, tout de vert multicolore et floral, très prisé à cette époque.
Alors ça, c'est pas très rustique, faut quand même le dire quand on le voit en photo.
Voilà, c'est une splendeur surtout. Au centre et au pied de la table, à l'ombre des regards, George Sand y fit installer un appareil de chauffage sophistiqué qui, grâce aux braises chaudes conservées, permettait aux convives de rester longuement attablés les soirs froids d'hiver à Nohain et résister aux températures difficiles. La table réunissait de nombreux convives, des artistes pour la plupart ou des personnes du pays qu'elle estimait, des personnes avec qui elle échangeait beaucoup. Nous allons faire un petit tour de cette table ensemble, impossible de les mentionner tous. Ce sont de toute façon des hôtes de renom comme Théodore Rousseau. Alors Théodore Rousseau était un artiste peintre très connu à Barbizon pour ses expositions. Tiens, allez visiter la maison de ce peintre à Barbizon à l'orée de la forêt de Fontainebleau. Il peint en particulier des paysages de la forêt. Et les Parisiens ne se doutent pas que c'est grâce à cet artiste peintre et à George Sand qu'on organisera la première manifestation écologique. En effet, l'État souhaitait faire abattre des arbres feuillus centenaires pour y planter des pins. Les activistes de l'époque arracheront tous les pieds de pin. S'en suivra un procès et une habile campagne de presse qui, à la stupéfaction générale, l'emportera. George Sand écrivit le premier texte résolument écologique et annonça que la déforestation asséchait la planète et elle pointa déjà le danger de la surexploitation des ressources. Mais à cette table furent aussi conviés Balzac, Alfred de Musset, Franz Liszt, Chopin. Chopin, compositeur et pianiste, amant de George Sand pendant de nombreuses années, et chez qui il écrivit les compositions les plus illustres de son œuvre. Eugène Delacroix, le peintre en effet, avait aussi sa place à la table de Nohain, mais aussi un atelier à sa disposition. Le romancier Gustave Flaubert, avec qui elle échangea une correspondance assidue, une formidable amitié s'établira entre deux, malgré leurs divergences de point de vue.
Alors, on pourrait rajouter aussi Pierre Leroux. Pierre Leroux, qui était un théoricien socialiste de cette époque, maire de Boussac, un village du sud, au sud de l'Indre, dans la Creuse, et qui créa le terme socialisme, d'ailleurs.
En effet. Enfin, le domaine de Nohain appartient aujourd'hui au Centre des Monuments Nationaux, qui en assure la conservation. Le jardin du domaine perpétue sa mémoire végétale avec une affection toute particulière. Et c'est une visite à faire. On est imprégné de la présence de cette grande dame. Et il aurait fallu tant de temps pour vous parler des autres espaces, du théâtre et des jardins et des petits bois que je préfère vous en laisser la surprise. Donc, bonne visite à la maison de George Sand, de Place Sainte-Anne, Nohain-Vic, dans l'Indre.
Alors, ce livre...
Alors, évoquer La Ville Noire aux éditions Le Temps des cerises, c'est se plonger dans des paysages austères et sombres, où les routes, les maisons et les rivières surtout semblent infernales et peuvent à tout moment emporter les baraques frêlement bâties sur les rochers, anéantissant en un éclair le travail de toute une vie. L'éditeur présente l'ouvrage comme le premier roman socialiste de George Sand. Des acteurs du roman qui, par leur seul nom, touchent, comme Sept Épées, Tonine, Va sans peur, Audebert. Un cadre de misère sociale, ouvrière, au tempérament multiple, presque un reportage. L'ambitieux Sept Épées souhaitait créer sa propre fabrique, devenir inventeur pour mériter toujours plus, jusqu'à se perdre lui-même en quittant sa terre pour apprendre toujours davantage. Tonine, pourtant fragilisée par une enfance difficile, était toujours la première à apporter écoute et solidarité, jusqu'à éditer les poésies d'Audebert qui mettront les ouvriers en joie pour oublier leurs conditions misérables. Je cite, Audebert avait méconnu sa véritable attitude, il était poète. Les mots lui venaient en abondance et sous ces mots il y avait de la peinture et de la vie. Il avait le sens de l'observation idéalisée et son apprentissage était facilement provoqué par les petits drames de la vie ouvrière. On reconnaît là l'attention que George Sand portait à l'énergie qu'apporte la littérature, mais aussi à la solidarité, l'amour de son prochain plutôt que l'ascension sociale et la fierté d'être patron. Sentiment qu'on qualifiait de maladie du siècle à l'époque, est mal-être de toute cette génération dont les idées étaient confrontées à cette société matérialiste et sombre. Elle a enfin une expression magnifique pour qualifier cette quête, l'escalier du monde. Bref, un moment bien émouvant à lire. Je vous rappelle les références de l'ouvrage La Ville Noire, George Sand, aux éditions Le Temps des Cerises, Paris en 2022.
Merci Agnès. Alors on t'attend pour l'émission du 10 janvier 2024 où tu nous parleras d'une exposition, puisque l'idée c'est une exposition à un catalogue, et bien d'une exposition qui a lieu en ce moment au Petit Palais à Paris et qui s'intitule le Paris de la modernité 1905-1925. L'exposition est vraiment passionnante. D'ici là, Frédéric, écoutons une petite mazurka de Chopin en attendant. Normalement, on attend. Passons à une autre époque, à un autre temps, Montmartre, Clichy, Miller. Tout un chacun a déjà entendu parler d'Henry Miller et peut-être lu Tropique du Cancer, Tropique de Capricorne, Sextus, publié chez Bartilla, on en parlait tout à l'heure, avec nos amis de Publico, qu'on en profite pour saluer. C'est vrai que c'est un auteur qui est dense, qui est intense. Et cette maison d'édition, Bartilla, nous propose un ouvrage considéré comme sulfureux, vendu à un temps sous le manteau, Jour tranquille à Vichy. Nous savons qu'Henry Miller a passé plusieurs années à Paris, et plus particulièrement avenue Anatole France à Clichy, de l'autre côté des Fortifs à l'époque, du périph' aujourd'hui, et avec son ami Perles, il écume les Champs-Élysées, Montmartre, la place Clichy, en quête d'aventure et de bon temps. Pas forcément très argenté. Il vit de peu, et cela nous fait penser à la vie de bohème du livre d'Henri Murger, scène de la vie de bohème que nous présenterons dans notre émission du 27 décembre prochain. Présentement, il s'agit de deux nouvelles. Premièrement, Jour tranquille à Vichy, ensuite Marin Marignan, conformément à l'édition originale Olympia Press de 1956, avec la même couverture jaune, noire, grise, quelques teintes blanches et surtout les photos du célèbre photographe Brassailles. Ces photos en noir et blanc, les nuits de Paris, les bars, les rues, le brouillard, le canal Saint-Martin, une fille et son marlou, des photos qui s'intègrent parfaitement dans le style de l'ouvrage. Cette relation Miller-Brassailles permet de rendre l'atmosphère de cette époque. Évidemment, de vous à moi, c'est chaud. Le style est cru, le ton est norme, pas très politiquement correct en 2023, mais après tout, Rabelais pourrait-il réécrire Pantagruel aujourd'hui ? Trois petits points. Les phrases se suivent avec nonchalance, une relative sérénité. Oui, pas de fric, mais ça va s'arranger. Mais leur déambule. La description du gris de Paris est très délicate et poétique. Il croise des prostituées, nous sommes en 1930. Elle déambule aussi et se retrouve chez Wepler, la brasserie, place Clichy. Je vous laisse découvrir la rencontre avec Nice. Une phrase de Miller. La vie nous fournit sans cesse de nouvelles ressources, de nouveaux fonds, même lorsque nous sommes réduits à l'immobilité. Dans le grand livre de la vie, il n'existe pas de capitaux bloqués. Nous sommes dans, dit-il, le Broadway parisien. Nous pénétrons dans le monde de la prostitution avec des filles, l'Écossaise, Jeanne, Nice, la fille du vestiaire, on ne saura jamais son prénom ni son nom, les Anglaises, et au fil des heures et des bars, nous sommes dans Montmartre, et nous arrivons dans Montmartre au petit matin, où il vous fait une description là aussi d'une très grande poésie. Je vous invite vraiment à lire ce petit ouvrage. Ces deux nouvelles seront écrites en 1940 à New York, revisitées par Miller en 1956, et Michael Padduano, en postface, resitue l'ouvrage dans le contexte de la guerre, souligne la prudence dans l'édition de ce livre. En effet, c'est l'éditeur français, par prudence, parce que aux États-Unis, ça aurait été un peu borderline, c'est l'éditeur français Maurice Girodias qui prend le risque de cette publication en 1956. Une écriture flamboyante, torrentielle, comme le relève Anaïs Nin, et je souligne à nouveau truculente. Oui, découvrez Henry Miller, Jour tranquille à Clichy, aux éditions Bartilla, une réédition 2023. Eh bien, nous sommes là. Marie nous a rejoint après avoir vécu, comme d'habitude, des aventures dans le métro, parce qu'on sait à quelle heure on part, on ne sait jamais à quelle heure on arrive dans le métro parisien, mais tout va bien. Alors, Marie, qu'en est-il là ? On parle souvent d'utopie, hein ?
Tout à fait. J'ai d'abord une petite annonce à faire.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, bien sûr.
Oui. Donc, pour commencer, donc là, on ne parle pas d'utopie. L'ouvrage « Les Inconnus de la Commune », édité par l'Association des Amis de la Commune de Paris 1871, vient de paraître. Donc, il s'agit d'un livre coécrit par plusieurs adhérents de l'association qui aborde le rôle joué par toute une série de communardes et de communards qui ont combattu pendant les 72 jours de l'insurrection. Chacun y ont contribué selon son domaine de compétence, hein, que ce soit au sein de la garde nationale, du comité central, de l'association internationale des travailleurs, de l'union des femmes, les artistes, l'éducation, les syndicats, sans oublier les communards de province. Mais tous n'ont pas systématiquement été cités dans les nombreux ouvrages historiques qui sont parus au fil des années. Donc cet ouvrage ne fait pas office de dictionnaire des inconnus de la commune. Hein. Il permet entre autres de donner une place mémorielle à tous ces divers et variés acteurs de la première révolution ouvrière française. Je n'en dirai pas plus concernant le contenu de l'ouvrage. En tout cas, le texte, le graphique et l'iconographie ont été très bien étudiés et travaillés. Et de nombreux exemplaires sont disponibles à la vente au local de l'association des Amis de la Commune de Paris, qui se situe au 46 rue des 5 Diamants, dans le 13e. Voilà.
Alors, on en arrive à l'ouvrage, l'autre tout ouvrage, l'Utopie. On parle souvent d'utopie, là on va parler de dystopie. Il y en a de célèbres comme 1984, mais oui. Là tu vas nous présenter Le Soulèvement des Pigeons, publié aux Passagers Clandestins.
Tout à fait, c'est la journée des 1000 heures, hein, parce que Le Soulèvement des Pigeons donc, a été écrit donc, par l'auteur Jess Miller, donc, qui est afro-américain. Et en fait, donc, il s'agit d'un récit d'anticipation dystopique. Donc, c'est-à-dire à la différence de l'utopie, donc la dystopie est une fiction dont les faits se déroulent dans un futur plus ou moins proche, mais surtout un futur très sombre, qui décrit un monde où l'avenir de l'humanité est de plus en plus menacé en raison des conditions de vie terrestre de moins en moins vivables, hein, car liées à de grosses catastrophes climatiques dont les dégâts sont irréversibles, ou encore des systèmes politiques totalitaires à grande échelle qui étouffent les populations survivantes en leur imposant des conditions de vie très strictes et rigides, avec un dispositif de surveillance, de contrôle et de répression qui rappelle étrangement le chef-d'œuvre de George Orwell dans 1984 avec le fameux Big Brother. Il s'agit plus précisément d'une nouvelle appartenant aux dyschroniques, hein, comme l'éditeur l'indique très très bien. Hein. Donc, c'est-à-dire des nouvelles de science-fiction écrites par des auteurs d'horizons et d'époques différentes, interrogeant la marche du monde, l'état des sociétés et l'avenir de l'humain. Donc les dyschroniques. Ce récit est contextualisé par l'auteur, donc Jess Miller, hein, à travers une période qui pourrait être la nôtre, hein, dans un lieu nommé Pigeon City, qui, c'est New York, en fait. Hein, les personnages représentent des humains qui sont soumis à un système particulièrement restrictif en matière de droits humains, un système qui ségrègue en distinguant clairement les populations noires des populations blanches. Ces dernières ont d'ailleurs le pouvoir. Un système qui rationne la nourriture en la distribuant à l'aide de camions repas, hein, l'auteur appelle ça comme ça. Donc, ces camions repas qui ravitaillent les rues une fois par jour, un système qui s'appuie sur des fourgons pilotés par des ordinateurs, tout est mécanisé, hein, ce qu'ils appellent les méca-palais, qui sont mis en place pour faire régner l'ordre en cas d'émeute, rendant presque impossible toute forme de résistance, jusqu'au jour où le soulèvement de toute une rue conduit à la chute volontaire de la cage d'un pigeonnier perché sur le toit d'un immeuble et qui détruit ce fourgon méca-palais répressif. Pour faire référence à cette fameuse citation du poète satirique latin Juvénal, « Donnez-leur du pain et des jeux ». Cet auteur avait déjà parfaitement compris à la période romaine qu'il suffisait de donner à la populace assez de loisirs et de divertissements afin de détourner leur attention de la vie politique. C'est un peu ce qui se passe dans ce récit, en fait. Hein, clairement, les personnages, en fait, doivent en fait dire quels sont leurs hobbies, comme ça le système essaye en fait de les détourner, leur attention de tout ce qui peut se passer dans les sphères du pouvoir, comme ça les gens sont vraiment concentrés sur leurs hobbies et non pas sur les différents problèmes, hein, surtout donc dans une société particulièrement sombre. Et ce récit renvoie à une période de l'histoire, hein, qui est très très connue aux États-Unis, la Grande Dépression des années 1930, qui a été particulièrement difficile à vivre pour les populations noires. La ségrégation était de mise à cette période. Et donc, en fait, c'est vraiment à cela que l'auteur Jess Miller fait référence, en fait. Donc, en fait, oui, on peut considérer que c'est dans un futur plus ou moins proche, parce que bon, bah voilà, il y a tout ce système mécanisé, etc., les ordinateurs qui contrôlent, etc. Mais ça renvoie vraiment à ce que les populations noires ont vécu pendant les années 30 à New York, dans le quartier d'Harlem. C'était vraiment très, très rude. Il y avait des ghettos, vraiment, voilà, donc c'est clairement ça. C'est l'écho, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété.
Oui. Alors, c'est donc un livre qui est sorti récemment.
Oui, hein? Tout à fait. Il est sorti au mois de septembre 2023. Et donc, c'est aux éditions Le Passager Clandestin.
Ouais, donc en 2023, et on peut bien évidemment le retrouver.
Oui, c'est un récit assez court, mais très très bien raconté, effectivement. Vraiment, il y a beaucoup de symboles dans ce livre.
D'accord, parfait. Merci. Alors en attendant, notre invité, Alexandre Antolin, je voudrais vous parler d'un livre qui est marquant, bien évidemment. C'est Récit de Kolyma. Alors, de Chalamov, bien évidemment, on a déjà présenté plusieurs livres de cet auteur russe qui mourut en constatant qu'il n'avait jamais possédé de bibliothèque. L'affaire se déroule en 1965 et Maurice Nadeau reçoit un message comme quoi il y aurait en microfiche un document qui parviendrait de la vie des camps de concentration et en URSS de l'époque. Alors je vous laisserai découvrir le parcours éditorial des récits de Kolyma parce que c'est très bien raconté. Et c'est cette édition que Maurice Nadeau a pris le risque, il y a toujours un risque éditorial, que Maurice Nadeau a décidé de publier. Et là, on va retrouver le même texte avec, en collection de poche, on retrouve les premiers textes de Chalamov sur les camps. Le ton est froid, neutre, comme un scientifique qui observe des troupeaux ou un nid de fourmis. Un témoin extérieur. L'ouvrage se compose d'une série de chapitres plus ou moins longs, décrivant une réalité par essence tragique. Vous verrez, c'est absolument fascinant. Quoi. C'est un peu horrible. Enfin, oui, c'est horrible. Vous rentrez dans le système concentrationnaire par étapes. Vous avez la nausée. La triste réalité des victimes se décline dans le chapitre intitulé « Épitaphe », qui débute ainsi. « Ils sont tous morts ». Et suivent, morts, des bolcheviks, des ouvriers, des intellectuels, des hommes au dossier marqué de la lettre T, T comme trotskiste, et puis un dénommé Derfel, un communiste français, parti soutenir la patrie du socialisme. Je cite Chalamov, il était moralement déchiré. Mais comment donc lui, un membre d'une Cominterne, avait-il échoué dans un bagne soviétique? Il mourut d'épuisement, d'une simple bourrade, il ne se releva pas. Ou encore Fritz David, communiste hollandais, accusé d'espionnage. Il aurait peut-être fallu, entre nous, écouter les anarchistes qui avaient déjà dénoncé le système bien avant qu'il atteigne cette horreur. Mais il y a aussi les droits communs, terribles. Et tout ce monde nous accompagne vers la Kolyma. L'absurdité du système se dessine à chaque page. Vous découvrirez les techniques d'interrogatoire, les règlements de compte. Les pages consacrées à l'évasion sont impressionnantes. C'est toute la vie quotidienne des camps qui passe sous nos yeux, comme autant de documentaires. Les causes de la déportation, la misère du sort des femmes de prisonniers, les évadés repris, les conditions de travail par moins 50 degrés bien sûr, les poux, les bains sordides et surtout ce froid lancinant qui s'instille dans chaque page. C'est plus fort que vous, vous ressentirez le besoin de prendre un thé, un café ou autre chose. Attention, personne n'est à l'abri. Et les responsables de la Colima sont eux aussi exécutés pour non-respect des normes du plan, pour évasion, pour espionnage japonais, Enfin, faut y penser quand même, hein. Bon, les bourreaux staliniens seront abattus par d'autres. La chaîne ininterrompue, finalement. On fusille aisément pour outrage à un membre de la garde, pour refus de travailler, pour vol de métal. L'humiliation est terrible dans les camps. Les pages consacrées à la remise des prothèses à l'administration par les handicapés sont intenses et démontrent cette réalité tragique que j'ai évoquée précédemment. Il parviendra, Chalamov, à suivre des cours, à devenir infirmier. Vous lirez l'absurdité. Et puis en 1953, la libération. Les pages consacrées à la bureaucratie traduisent l'angoisse du détenu libéré qui craint de ne pouvoir retrouver le continent c'est-à-dire le reste de l'URSS. Et pourtant, enfin, il arrive à prendre le train. Enfin, il arrive à Moscou. Je vous laisse découvrir l'issue de ce magnifique récit. Varlan Chalamov, récit de Colima, aux éditions Maurice Nadeau en 2023. Un très beau livre, je le recommande. Nous allons désormais recevoir Merci. Alexandre Antolin. Antolin, bonsoir. Alexandre Antolin, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, si vous voulez. Alors, donc, parfait. Vous êtes docteur en lettres modernes et histoire du genre. Vous êtes assistant d'édition. Et puis, en parallèle, vous vous intéressez aux questions de censure des autrices dans l'après-guerre et la littérature lesbienne de cette période. Cette question de la censure nous a, dans l'équipe d'Au fil des pages, beaucoup intéressé, car cette atteinte à la liberté d'expression nous paraît toujours inacceptable. Alors, vous avez publié cette année, aux Presses universitaires de Lyon, un ouvrage dont on a rappelé le titre en début d'émission, un ouvrage dense, riche de références, de citations, et qui a pour titre « Une censure éditoriale, ravage de Violette Leduc ». Alors, qu'est-ce qui vous a porté sur cette thématique de la censure des autrices et la littérature lesbienne ?
Pour la question de la censure, c'était parce que je me destinais à l'édition. Et donc, à partir de là, dans mes recherches, lors de mon master de recherche en lettres, je m'étais dit que le cas de Ravage pouvait être un beau cas d'étude et qu'il me permettrait d'avoir une professionnalisation ensuite. Il se trouve que j'ai poursuivi en thèse. Et pour ce qui est de la littérature lesbienne, ça a pu se faire grâce à Aurore Turbio, qui est donc docteur en littérature, et elle a travaillé sur la littérature engagée féministe et lesbienne dans les années 70 entre la France et le Québec. Et les éditions du Cavalier Bleu l'avaient démarché pour faire une histoire de la littérature lesbienne. Elle ne se sentait pas de le faire toute seule, puisque couvrir 100 ans, c'était beaucoup. Mais elle acceptait si on le faisait à plusieurs. Et donc, avec Manon Berthier, Camille Isler et Alex Lachkar, on s'est mis à cinq pour travailler sur le sujet. Et j'ai du coup rédigé le chapitre sur les années 50, enfin qui allait de 1943 à 1969.
Il est publié chez qui, cet ouvrage ?
C'est les éditions du Cavalier Bleu. Ça s'appelle « Écrire à l'encre violette ».
En quelle année ?
C'est sorti en mai 2022.
Bon, très bien. Donc, on le signalera sur le site parce que c'est aussi intéressant de voir ça. À telle enseigne, d'ailleurs, nous étions cette semaine dans une exposition sur le Paris de la modernité. Et je constatais, c'est pas une découverte, mais c'est intéressant de le dire à l'antenne, qu'il y avait une culture lesbienne à Paris dans les années qu'on appelle un peu rapidement les années folles.
Oui, il y avait cette culture qui existait, mais après qui est relevée tout de même d'une élite. On peut citer à ce titre-là donc le Temple de l'Amitié, qui était un salon de littérature tenu par Nathalie Clifford Barney, une poétesse états-unienne richissime et qui ne dépendant financièrement de personne, pouvait faire salon, publier sa littérature et aussi accueillir d'autres personnalités de l'époque telles que Colette ou Mireille Havé. Il y avait aussi des hommes parfois comme André Gide qui venait donc pour discuter de ce que pouvait être la littérature, mais toujours dans un cercle assez bourgeois et aristocrate.
Alors, rappelons les faits et même une question préalable. Qui est Violette Leduc ?
Alors, Violette Leduc, résumer 65 ans de vie, c'est toujours un peu compliqué. C'est important de citer son milieu d'origine, puisque donc elle est bâtarde. Sa mère était domestique dans une maison bourgeoise à l'ancienne. Et il y a eu une relation avec le fils bourgeois de la famille. On ne sait pas bien dire s'il s'agissait d'une relation abusive ou non a posteriori. Mais de cette union est en fait née Violette Leduc. On sait en tout cas que donc c'était la famille de Barral a demandé à Berthe Leduc d'aller accoucher dans une autre ville et en lui envoyant de temps en temps, quand il s'en souvenait, une pension. Mmh. Donc Violette Leduc grandit dans ce milieu avec sa mère et sa grand-mère, milieu très matriarcal et avec une mère qui va lui inculquer une misandrie due à son vécu. Elle grandit, elle a différentes amours sur lesquels je reviendrai. Et en fait, elle commence la littérature durant la Seconde Guerre mondiale par le journalisme. Elle publiait dans différentes revues vichysoises des nouvelles pour donner du baume au cœur aux femmes qui étaient restées au foyer. Et elle va commencer aussi sous l'influence de Maurice Sachs, qui était un auteur homosexuel. C'est son premier roman, qui sont des souvenirs d'enfance. Et c'est au moment de la Libération où elle va rencontrer Simone de Beauvoir, à qui elle remet le manuscrit, qu'elle entre en littérature, puisque Beauvoir lui reconnaît un talent et va commencer un marrainage littéraire avec elle. De là, Leduc publie toute une série de livres, une dizaine, qui sont tous ou presque autobiographiques. Et elle va continuer à être dans une grande misère puisque ses livres ne se vendent pas. Jusqu'au moment où, donc en 1964, elle frôle le prix Goncourt avec La Bâtarde, le premier tome de son autobiographie. Et à partir de là, le succès arrive, elle devient indépendante financièrement. Mais malheureusement, on lui diagnostique un cancer du sein. Elle va continuer à écrire, mais elle s'éteint en 1972 à Faucon, qui est un petit village dans le sud où elle avait trouvé une certaine quiétude. Après seulement un bref succès de 5 ans.
Oui. Alors, revenons à Ravage. Alors, La Bâtarde, bon, c'est un livre qui est relativement connu, mais Ravage, quelle est l'histoire de ce livre ?
Ravage, c'est le troisième roman écrit par Violette Leduc, dans lequel elle va retracer ses trois grandes amours. Il y a Isabelle, qui est l'amour du pensionnat, Cécile, l'amour en concubinage, et Marc, qui est l'amour marital, puisqu'elle va se marier avec lui. Et l'objectif de Leduc, c'était de décrire de la manière la plus précise qui soit les sensations éprouvées au moment de l'amour physique par une femme. Et donc, que ce soit lors de relations lesbiennes ou de relations hétérosexuelles. Elle ne hiérarchisait pas l'une ou l'autre catégorie, elle formait un continuum de ces différentes relations pour montrer l'évolution de Thérèse tout au long du roman, qui traversait des épreuves, que ce soit les ruptures avec les différents partenaires, ou bien des scènes de viol qui sont présentes, des violences conjugales, une scène d'avortement tardif à 5 mois et demi. Donc c'est pour ça, elle voulait dans ce roman expliquer ce que pouvait être le vécu qu'elle avait eu.
Donc il y a une large part de biographie ou totalement biographique, qu'en est-il ?
Alors le terme utilisé c'est roman autobiographique, oui. Puisque Leduc toutes ces amours qu'elle évoque sont des amours qu'elle a eues. Isabelle, c'est bien Isabelle Prévost qui était une camarade, Cécile et Denise Hergès avec laquelle elle a vécu pendant 8 ans. Et Marc représente Jacques Mercier, avec qui elle a bien été mariée, divorcée. Donc tous ces événements qu'elle raconte sont vrais, mais elle utilise la forme du roman autobiographique pour prendre certaines libertés avec la réalité. Par exemple, l'amour avec Isabelle, dans le roman, dure 3 jours et 3 nuits, alors que dans la réalité, on sait que cela a duré toute l'année scolaire.
D'accord.
Elle va utiliser le fait littéraire vraiment pour prendre quelques libertés et ne pas trop trahir la réalité.
Alors, elle écrit ce livre et ce manuscrit, elle le présente chez Gallimard, qui, je crois, refuse de publier ses cochonneries, je cite.
C'est ça, le terme est de Jacques Lemarchand qui dit dans son journal...
Alors, qui est Lemarchand, déjà?
Alors, Jacques Lemarchand, c'était l'éditeur de Violette le Duc chez les éditions Gallimard, et qui était aussi critique de théâtre, et était un fervent militant pour le théâtre d'avant-garde. On lui doit surtout ça. Et donc, il va lire le manuscrit et inscrit dans son journal, lu le manuscrit étrange et bizarre de Violette le Duc, doit lui dire de couper les cochonneries.
Oui, on est en 48-50, non, c'est ça, à peu près?
C'est ça, quand elle soumet le manuscrit, en 1954. Ouais. Elle écrit Ravage de 1948 à 1954.
Ça passe pas. On va avoir des opposants farouches. Je crois que Raymond Queneau est assez opposé.
Voilà, Raymond Queneau s'y oppose aussi en disant que, notamment, la partie Thérèse et Isabelle est impubliable, ou bien il faudrait publier sous le manteau, c'est-à-dire que Gallimard pourrait faire une diffusion, mais sans inscrire le nom d'éditeur. Et encore, il dit, il faudrait rajouter une bonne centaine de pages et mettre un peu plus de discrétion sur les relations amoureuses entre Thérèse et Isabelle.
Et Queneau avait un poids important chez Gallimard.
Oui, oui, il était extrêmement reconnu. Il faisait partie du comité de rédaction depuis les années 30. Mais pourtant, on ne peut pas dire que Queneau était lesbophobe, parce que ni même qu'il avait des velléités envers Violette le Duc, puisqu'il pouvait très bien soutenir d'autres romans qui parlaient de lesbianisme et qui avaient des formes expérimentales, ce qui fut le cas avec Hélène Bessette, qui est une autrice que Queneau a soutenue tout du long de sa carrière et qui a été abandonnée par Gallimard une fois que Raymond Queneau est décédé.
On a même l'impression qu'on choisissait au milieu de toutes ces autrices, certaines. Je crois que vous dites d'ailleurs que on acceptait certains livres sur ce thème parce qu'in fine, les femmes rejoignaient la moralité, le mariage ou autre.
Oui, c'est ça. En fait, la particularité, oui, c'est un des traits de la littérature lesbienne de l'après-guerre, c'est que l'issue doit toujours être fatale. On ne peut pas s'imaginer une relation lesbienne épanouie à la fin du roman. Donc les issues sont différentes. Il peut y avoir le retour à l'hétérosexualité, ce qui est le cas chez Béatrix Beck, qui, son héroïne peut avoir des sentiments pour une jeune fille, mais in fine, elle termine avec un homme. Ou ça peut être des choses qui sont beaucoup plus violentes, que ce soit le meurtre conjugal ou un décès inopiné et soudain, comme c'est le cas chez Nicole Louvier. Donc, on voit que Gallimard autorise les amours lesbiennes dans son catalogue, mais pas avec une fin qui permette de se projeter dans une relation lesbienne épanouie.
Alors, on lui demande de supprimer certains passages, de les réécrire, et c'est pas simplement des maladresses de style, hein, c'est vraiment le fond du sujet traité, et elle le vivra, je crois, comme un traumatisme.
Complètement. Mais en fait, ce qu'on lui reproche, c'est son réalisme poétique. C'est-à-dire qu'elle ne va épargner aucun détail, que ce soit pour le meilleur dans les relations avec Thérèse et Isabelle, mais aussi dans le pire lorsqu'elle décrit les scènes de viol. Ce qui gêne, c'est aussi qu'il n'y a aucun male gaze. Violette le Duc n'écrit pas pour plaire à des messieurs qui pourraient lire le livre à une main. C'est vraiment une volonté de parler en tant que concerné et d'écrire un vécu réel.
Comment avez-vous retrouvé le texte original? Parce que ce qui est intéressant dans votre livre, bon, c'est toute votre analyse, mais c'est aussi les extraits, les différentes versions que vous présentez. Comment avez-vous retrouvé dans ces éléments?
Alors pour le manuscrit de Ravage, ça a été un immense coup de chance puisque je faisais un stage à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine qui se trouve à côté de Caen. Et la fille adoptive de Beauvoir faisait un versement au fond Violette Leduc. Le directeur littéraire de l'IMEC savait que je faisais mon mémoire sur Leduc et m'a demandé d'authentifier. Et il se trouve que dans le versement se trouvait le manuscrit de Ravage. Donc à partir de là, il était possible de voir l'architecture narrative voulue par Leduc et surtout de voir ce qui se trouvait derrière les pointillés de la censure. Et pour les autres états du texte, ça a été une recherche via le catalogue commun français, qui est un catalogue général qui permet de localiser les différentes archives qui ont été inventoriées en France. Grâce à cet outil, j'ai pu trouver le tapuscrit Thérèse et Isabelle que Violette Leduc avait offert à Jean Cocteau. Et il y a aussi une partie des archives de Ravage qui sont en collection privée chez le biographe de Violette Leduc, Carlo Gianfitti, et avec qui j'ai discuté pour avoir une copie et justement pouvoir aller plus loin dans mon étude, sachant qu'aujourd'hui, toutes les copies que j'ai pu consulter sont maintenant dans le fonds Violette Leduc à l'IMEC.
Il y a une citation de Violette Leduc là que je reprends et que vous mentionnez. Ravage serait mon livre préféré de Violette Leduc. Elle en parle à la troisième personne. Si j'étais un de ses rares lecteurs, c'est dur, c'est précis, c'est raréfié, c'est complexe. Il n'y a pas une courbette. Voilà ce que j'ose dire de mon livre. Alors, vous reprenez cette phrase pour la nuancer. C'est du quoi ? C'est le contexte de l'après-guerre ? Qu'en est-il ?
Non, je suis plutôt d'accord avec cette phrase de Violette Leduc. On voit justement toute la complexité quand on a tout le manuscrit, en fait, toutes les étapes où on voit qu'elle retravaille. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de courbette, même si, par la force de la censure, elle va devoir se courber afin que le texte puisse être publié, puisqu'on lui dit, bon, soit vous enlevez la première partie et vous réorganisez l'architecture, soit ça ne paraît pas.
Et donc,
à ce moment-là, Leduc courbe.
Ouais. Il y a une commission de censure issue de la loi de 1949. Qu'est-ce que c'est que cette commission de censure et quelle est sa politique ?
Alors, cette commission de 1949, elle est due à, au moment de la libération, une arrivée massive de comics états-uniens en France. Et donc, les ligues de morale ont absolument peur pour les petites têtes blondes qui liraient Tarzan, qui les pervertiraient. Et donc l'objectif premier est de contrôler toutes ces publications états-uniennes. Le fait est que quand on regarde les archives de la commission, il y a un article qui a été voté et qui précise que ce n'est pas les publications destinées à la jeunesse et à l'adolescence, mais toutes celles qui pourraient tomber entre les mains de mineurs, sachant qu'à l'époque on est mineur jusqu'à 21 ans, donc toutes les publications sont englobées. Et en voyant les listes d'arrêtés, il ne s'agit pour les trois premières années que de revues pornographiques qui vont être interdites. Et donc cette commission, elle va interdire à tour de bras des revues pornographiques, puis à partir des années 50, elle va changer pour interdire cette fois-ci des monographies, des livres toujours pornographiques et essentiellement de petites maisons d'édition. On va voir qu'il y a vraiment un jugement classiste en se disant que les grandes maisons d'édition comme Flammarion, Gallimard et autres ont cette espèce d'imprimatur et cette aura qui permet de dire là, il s'agit de la grande littérature avec un L majuscule, tandis que les petites maisons d'édition qui publient du Harlequin, là, c'est vraiment la basse littérature et on peut leur tomber dessus parce qu'elles n'ont pas aussi les moyens de se défendre. Donc, leur infliger à la fois des amendes et des peines de prison, fait que, généralement, les structures ferment.
Ce que vous exposez, là, ça traduit bien l'ensemble, l'état d'esprit d'une société de l'époque qui était quand même très répressive, bon, à l'égard de l'avortement, etc. Et je pense, par exemple, à un amendement du député Mirguet, que vous relevez, voté en 60, qui inscrit l'homosexualité parmi les fléaux sociaux.
Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut préciser à la fois que la France n'a jamais pénalisé l'homosexualité en tant que telle, mais a toujours utilisé des lois de biais. Par exemple, celle de 1942 qui faisait une différence sur la majorité sexuelle, où la majorité sexuelle, donc en 42, était de 21 ans pour des relations entre personnes de même sexe et de 13 ans pour des relations hétérosexuelles. Et cette loi est conservée en 45, mais on relève à 15 ans tout de même la majorité sexuelle hétérosexuelle. Mais l'amendement Mirguet, en fait, va faire un effet aggravant pour les personnes qui seraient condamnées. Ça va être vraiment de rajouter une couche des personnes qui seraient déjà condamnées.
Oui, tout à fait. Et alors, on l'a déjà dit précédemment dans notre entretien, on a dans la littérature déjà abordé la question du lesbianisme, Colette par exemple, mais pourquoi ce rejet de Ravage? Pourquoi aussi implacable? Ou encore même Pauvert n'est pas intéressé, Pollan n'est pas opposé aux homosexuels, mais il ne se mouille pas. On a aussi un texte de Maurice Garçon, qui est l'avocat de Gallimard, et c'est peut-être là qu'on peut trouver une explication, non? Pourquoi c'est ce caractère implacable?
Puisque, justement, Violette Leduc met tous les détails, mais c'est ce qui va choquer aussi dans Ravage, c'est qu'il n'y a pas cette fin de condamnation. Thérèse, donc le nom qu'elle donne à son héroïne, à la fin du roman, dit « Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais malgré tout, j'ai foi en les lendemains et il pourra y avoir des jours meilleurs. » Donc ça, c'était un premier élément qui posait problème. Et après, Pauvert, il y a quelque chose de très simple comme explication. Leduc en parle dans ses mémoires, le deuxième tome, La folie en tête, où elle dit « J'ai dîné avec Pauvert qui semblait poli, mais je semblais l'emmerder. » Et effectivement, dans un entretien donné bien des années plus tard, Pauvert explique qu'il ne publie que des choses qu'il aime, sauf il y a une exception qui était Violette Leduc, mais juste parce que on l'avait payé grassement pour faire une édition de luxe. Donc, lui, il n'est pas intéressé parce que le style, il trouve ça assez mauvais. Et pour le texte de Maurice Garçon, il s'agit d'une lettre qu'il envoie à Pollan et où il dit que les juges ne sont plus aptes à pouvoir juger pleinement la société puisqu'il s'agit de vieux croulants qui, au final, sont complètement déconnectés et ont 50 ans de retard sur la société. À partir de là, il n'y a pas grand-chose à en attendre.
Oui. Peut-être qu'il a d'ailleurs aussi en tête hein, le procès Pétain. Je suis en train de lire un livre à ce sujet où Maurice Garçon est déchaîné contre les magistrats et l'attitude de ces mêmes magistrats. Bon, il y a vraiment une opposition entre l'avocat Garçon et puis l'ensemble de la classe des magistrats. Et alors, vous écrivez que pour l'idéologie dominante, l'amour lesbien est une impasse. La commission de censure, les pouvoirs publics, les institutions ecclésiastiques, bon, qui à l'époque pesaient, se mobilisent contre cette relation entre deux êtres. Et c'est peut-être encore plus grave à leurs yeux que l'homosexualité masculine.
Oui, puisque surtout dans les années 50, on a un retour du familialisme et du natalisme qui est absolument écrasant. Mmh. Et à partir de là, enfin, même les mouvements féminins de l'époque, qui ne se disent pas féministes, disent « nous voulons des droits pour les femmes, mais avant d'être des femmes, nous sommes des mères ». Et ça, que ce soit du côté des catholiques ou des communistes. C'est vraiment unanime là-dessus. Mmh. Donc, les femmes lesbiennes représentent vraiment un péril de la société parce que elles ne fondent pas une famille et en plus elles se passent des hommes. Donc à partir de là, c'est vraiment terreur lesbienne au sein de la société hétérosexuelle.
Oui. Alors les textes de Jean Genet sont aussi dépourvus d'ambiguïté, mais là ça passe.
Et là ça passe puisque à nouveau il va y avoir une auréole de respectabilité. Jean Genet va publier ses textes sous le manteau, ça vend très bien, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça aussi, c'est un fait à prendre en compte, puisque Violette Leduc, elle, ne se vendait pas. Et au moment où ses œuvres complètes vont paraître chez Gallimard, d'une part, le premier tome est un essai qui est fait par Jean-Paul Sartre, qui est à ce moment-là très en vogue avec la philosophie de l'existentialisme. Mmh. Et il y a aussi ce moment où Genet se fait prendre à nouveau pour un menu larcin et les intellectuels se mettent ensemble, font une pétition pour pouvoir le défendre, donc Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau, entre autres, et ils obtiennent la grâce présidentielle de Vincent Auriol. Donc à partir de là, même si Genet écrit des scènes qui sont extrêmement crues, on parle par exemple d'une scène où il y a un jeune milicien qui se fait violer en tournante par des SS, ou une scène où Hitler se fait sodomiser, enfin des choses comme ça. Pour autant, puisqu'il a cette protection de la grâce présidentielle, ça passe, et même la commission de censure à un moment évoque le nom de Genet, mais on dit, ah non, là, c'est de la littérature, donc on peut laisser passer.
Mmh. On a parlé tout à l'heure de Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir, mentor, amante, manipulatrice, protectrice, elle est curieuse dans votre texte.
Alors, malgré toutes mes recherches, je n'ai pas trouvé d'archives prouvant une relation entre Violette Leduc et Simone de Beauvoir.
Oui.
Et je pense qu'elle est plus protectrice. Protectrice, mentor, avec toute la rigidité de Beauvoir. Enfin, c'était Françoise Debonne qui disait à propos d'elle, c'est une horloge dans un frigidaire. C'est-à-dire qu'elle est très rigide, elle est très carrée. Mais en fait, il faut ça aussi pour pouvoir gérer Violette Leduc.
Ça ressort bien des propos que vous reprenez. Effectivement, elle est très carrée, lui demandant de reprendre les textes, de réécrire, enfin de travailler. C'est vraiment quelqu'un qui gère complètement le personnage Violette Leduc, en tout cas qui essaye.
C'est ça, et elle tente malgré tout de mettre Violette Leduc sur un pied d'égalité avec elle. Mais c'est en fait le duc qui n'arrive pas à la descendre de son piédestal.
Oui.
C'est aussi un mécanisme de création chez Violette Leduc. C'est-à-dire qu'elle attend d'une personne en face d'elle qu'elle admire ses textes, elle s'assure que cet amour est impossible, elle lui dit, elle déclare la flamme à cette personne, elle se prend un mur, et là il y a de la création littéraire. Ça on le voit, elle le fait avec Nathalie Sarraute, elle le fait avec Jacques Lemarchand, son éditeur. C'est un mécanisme assez régulier, et elle le fait avec Beauvoir. Ce qui lui permet, par exemple, de faire L'Affamé, qui est le journal de sa passion pour Beauvoir. Mmh. Et Beauvoir a cette rigidité, cette psychorigidité, on pourrait même dire, de dire, je reconnais votre talent, j'ai pour vous une incommensurable indifférence, mais nous allons continuer ensemble parce que votre œuvre est plus importante que les aléas de notre relation.
Mmh. Vous évoquez aussi la solitude de Violette Leduc et vous dites que c'est par le support papier qu'elle rencontre les personnes, c'est-à-dire ?
Oui, puisque Leduc est très bonne observatrice, elle écoute beaucoup, mais pour autant, elle a du mal à se décentrer d'elle-même. Et donc, pour pouvoir vraiment rencontrer les gens, ça va être lorsqu'elle va remettre sur le papier tout ce qu'elle a vécu, qu'elle va pouvoir déplier, mais vraiment dans les moindres recoins, les situations qu'elle a vécues. Il y a des scènes avec des focalisations qu'on retrouve dans les manuscrits qui vont s'étendre sur 10, 20 pages, alors qu'il s'agit vraiment de 5 minutes, même pas. Et c'est grâce à la page qu'elle peut comprendre en fait ce qui est arrivé.
Mmh. Et dans ce livre qui est d'une belle intensité quand on lit Ravage, bon, il y a plusieurs messages, l'amour lesbien, mais aussi la dénonciation du comportement des hommes, l'avortement, toute une série de combats à l'issue encore incertaine à l'époque. Est-ce qu'elle participera à des combats politiques dans ce domaine ou pas?
Pas du tout, pour le coup. C'est-à-dire qu'elle a conscience que ce qu'elle écrit pourra servir à d'autres femmes, puisqu'elle évoque à un moment le fait qu'il y aura d'autres Thérèse et Isabelle qui s'aimeront comme elle, ou dans les années 70, c'est à nouveau Françoise Debonne qui vient la voir pour signer le manifeste des 343 sur l'avortement. Mais
elle le signe ?
C'est-à-dire, elle le signe, elle le signe en disant que voilà, c'était vraiment important pour elle, mais elle ne va jamais s'engager dans un mouvement militant, mais tout en ayant conscience que son livre servira, puisque à la fin de sa vie, donc je crois vraiment ça doit être début 72, il y a l'édition de poche de Ravage qui sort, et dans une lettre elle dit « Oui, je suis content qu'il sorte en poche, j'espère qu'il servira ». Donc même si elle ne s'inscrit pas dans un mouvement, elle s'y intéresse et elle lit après les livres de Beauvoir. Donc, elle a connaissance de cette littérature, mais pour autant ne s'inscrit pas dans un groupe militant.
Mmh. Et finalement, le temps passe, l'évolution des mœurs, du droit. On a le sentiment qu'on crée un personnage à Violette le Duc. Est-ce qu'on essaye d'en faire une genre d'icône ? Enfin, je ne sais pas, mais c'est étonnant, ce personnage.
Mmh. Oui, mais le personnage avait commencé dès le succès de l'Avatar en 64, mmh. où on va dire, voilà, c'est la femme laide, absolument affreuse.
Mais elle n'est pas si laide que ça.
Et non, moi je ne la trouve pas laide. Et Dominique Horry, qui était secrétaire de la Nouvelle Revue Française, dit aussi qu'elle avait un visage éclatant. Enfin, elle fait une très belle critique de Ravage. Mais non, en fait, le Duc, dans ses livres, parle de sa laideur. Elle en fait un sujet qui est récurrent et qui est intéressant à étudier littérairement, que Thomas Béthou a étudié. Mais les journalistes vont uniquement se focaliser sur son physique et oublier en fait tout le style et la littérarité qui est mis dans ces moments-là.
Oui.
Et ce que Virginie Despentes disait aussi dans King Kong Theory, en disant est-ce qu'on parle du visage et de la laideur de Michel Houellebecq, alors que moi on va toujours me ramener à mon physique. Mmh. C'est quelque chose d'assez récurrent vis-à-vis des autrices.
Et puis... finalement, Gallimard publie tout, parce que quand vous dites qu'il publie une collection de poches, je crois qu'il y a encore un petit peu des écarts. Et là, Ravage sort dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard en 2023, mais j'ai pas l'impression qu'on tire à un grand nombre d'exemplaires. Hein.
Alors, j'ai eu les chiffres récemment, et c'est à 5000 exemplaires pour cette nouvelle édition de Ravage.
Bon, ça va.
Donc, ce qui est bien. Mmh. Et l'avantage aussi de l'imaginaire, c'est que la collection étant assez vivante, si épuisement il y a de nouveaux tirages.
Oui.
Ce qui est le cas, par exemple, de l'asphyxie. Il y a aussi toute la trilogie autobiographique de Le Duc qui est publiée.
Mmh.
Et Margot Gallimard y met un certain point d'honneur, puisque, par exemple, Trésor à prendre, qui est le journal de voyage dans le sud de Violette le Duc, qui n'était plus disponible en folio, elle l'a réédité l'année dernière.
D'accord.
Pareil, dans la collection L'Imaginaire.
Alors finalement, vous vous rendez compte, pourquoi aujourd'hui, quand on regarde derrière nous, pourquoi toute cette censure et ces atermoiements ultérieurs ? Finalement, pourquoi tout ça ?
Pourquoi tout ça ? Mais parce que Ravage, en fait, était trop violent à l'époque. Mmh. Je pense que Violette le Duc a publié son livre trop tôt. Elle l'aurait publié 10 ans après. Il y aurait eu aussi des tergiversements, mais je pense moins.
Mmh.
Aujourd'hui, maintenant, Ravage existe. Alors, pas du vivant de l'autrice, même si elle l'aurait voulu. Et je pense que ça lui permettra de vivre. Et j'espère aussi d'entraîner de la création chez d'autres autrices, auteurs et autres.
Bien. Écoutez, merci pour cet échange. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Parce qu'on aime bien toujours penser au livre d'après pour vous réinviter éventuellement.
Oui. Pour le moment, je travaille beaucoup sur Béatrix Beck, qui est le prix Goncourt 1952 pour Léon Morin Prêtre.
Oui.
Donc là, je consulte les archives et tout.
Là aussi, c'est un personnage. Hein.
Oui, mais personnage extrêmement intéressant, ouais. À la fois dans les différentes périodes de sa vie, et qui était pleine et entière, pour le coup, elle vraiment militante, à la fois communiste, mais aussi pour la cause des animaux. Donc oui, vraiment un personnage très intéressant.
Donc là, il y aura un livre à l'arrivée ?
Une biographie, mais après, je n'ose dire dans combien d'années.
D'accord. Bon, en tout cas, vous nous préviendrez. Nous, j'espère qu'on existera toujours. En tout cas, merci encore. Je rappelle le titre de votre livre, Une censure éditoriale, Ravage de Violette le Duc, publié aux Presses universitaires de Lyon en 2023. Alexandre Antolin, merci pour cet échange et au plaisir de vous retrouver.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Depuis le début de cette émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Vous retrouverez leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog du groupe Communes de Paris, de la Fédération anarchiste. Et comme tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico.
la célèbre revue, la célèbre librairie, pardon, de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et puis, nous avons aussi des commentaires d'ouvrages dans la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Cette chronique des idées et des luttes, elle est hebdomadaire, hein, on la renouvelle là nous avons parlé du catalogue de l'exposition Steinlein, nous avons parlé de l'histoire des bourses du travail de Fernand Pelloutier. Donc il y a des thèmes qui complètent ce que nous présentons dans le cadre de l'émission. Je voudrais aussi vous dire deux mots du livre, de la revue, je vais y arriver, du Monde Libertaire de décembre 2003. Le titre, c'est « Nous ne sommes pas des dindes » et c'est en fait une série d'articles pour dénoncer la société comme une de consommation et dire qu'il est nécessaire de vivre autre chose. Nous ne sommes pas des dindes, c'est absolument passionnant à lire, avec aussi un certain nombre de fiches de lecture d'amis. On aura l'occasion de revenir dessus. Est-ce que Dominique est en ligne? Allô, Dominique?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, nous arrivons au troisième temps de l'émission. Un roman, Dominique, alors de Benjamin Franceschetti, c'est ça?
Oui, qui s'appelle « Si le geste est beau », paru à la Manufacture des Livres en 2023.
Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, d'abord, c'est un auteur corse. Hein, il est né en 1990 à Bastia et il a fait des études de philosophie, un mémoire sur le bonheur dans l'œuvre de Dante, et il enseigne la philosophie en banlieue parisienne depuis 6 ans.
Alors, histoire, l'histoire de ce livre...
Alors d'abord, c'est un roman à l'ancienne. Hein. On croise des espions français, russes. L'Okhrana, pour ceux qui savent, c'était le...
La police politique russe, si je me souviens.
Oui,
non,
oui.
C'est ça,
hein? Oui, oui. L'ancêtre du KGB, on peut dire. Des agents double et triple, des flics, des anarchistes, des agents provocateurs, des terroristes, journalistes et hommes politiques, comme Caillot. Tout ça à la veille de la guerre 14. On y voit aussi les brigades mobiles, la sûreté, des automobiles comme la Renault de type H, des activistes anarchistes et la Ford T, une Dion au bouton volé. Donc tout ça, ça ressemble un peu au bouquin de Maurice Leblanc, de Gaston Leroux et même de John Le Carré, parce qu'il y a un petit côté espionnage. Hein.
Oui, c'est vraiment extrêmement vivant. Les pages se lisent très rapidement. Hein.
Oui, oui, on n'a plus l'habitude de voir des livres comme ça.
Oui. Alors que...
Alors, le titre avant,
le titre, oui.
Oui, c'est une référence à une phrase d'un poète, on ne sait pas qui, hein, qui a déclaré au moment de l'attentat de Vaillant en décembre 1893, quand il lançait une bombe à la Chambre des députés, qu'importe la mort de vagues humanités si le geste est beau.
C'est grandiose, hein?
Oui, oui, oui.
Alors, quelle est l'intrigue?
Alors, le roman débute par un attentat d'un groupe d'anarchistes qui veulent libérer l'un des leurs, Isidore Granville, emprisonné pour violence sur agent. Mais à la dernière minute, Arthur, dit l'alchimiste, parce qu'ils ont tous des surnoms, fait du zèle et balance une bombe à mèche sur le café des Flandres et tuant 7 personnes. Donc les anarchistes vont courir se cacher à la campagne.
Et les personnages sont bien campés.
Ah oui, oui. Alors, donc l'artificier Arthur, responsable du carnage, dit l'alchimiste parce qu'il veut transformer la réalité en utopie. Alors, il y en a un qui s'appelle Casse-tête, un autre la cigale, petite cloche, grande cloche. Du côté enquêteur, on a Fabre, un commissaire désabusé, et Eugène, un journaliste à la recherche d'un bon article à écrire qui ressemble un peu à Rouletabille. Il va se retrouver en première ligne avec sa petite amie Gwen. Il découvrira que c'était aussi une espionne anglaise. Et on a enfin un espion russe, Vladimir Burtsev, dont on ne sait plus très bien dans quel camp il est.
Alors, il y a des réflexions philosophiques, tout de même?
Oui, oui. Ah oui, oui, bah, l'auteur est philosophe. Hein, donc, il y a beaucoup de discussions sur la liberté, l'action violente, les manipulations policières, les relations diplomatiques, la politique. Les anarchistes débattent beaucoup sur l'utilisation de la violence. Alors, on se démarque de Bono et des bandits avides d'argent. Rien à voir avec l'idéal de libertad de Joseph Albert. On débat sur Ravachol, Auguste Vaillant, l'affaire Rochette, les grèves de Draveil. Le commissaire Fabre est amené à interroger Rirette, Maître Jean, une figure du mouvement anarchiste. On lit Ekel pour connaître les sciences, Gaston Couté pour découvrir la poésie, Reclus et Bakounine pour s'initier à l'action politique. Donc tout ça, il y a des références. Il y a également l'introduction d'un agent provocateur. Donc ça permet de discuter sur la position du gouvernement qui cherche à se rapprocher des Russes. Hein, parce que après la guerre de 1870, l'Allemand est l'ennemi, c'est un rival économique, concurrent aussi pour les colonies. Donc le gouvernement Poincaré recherche une alliance avec la Russie et s'associe en sous-main avec la police du Tsar, cette fameuse Okhrana, qui n'hésite pas à agir sur le territoire français contre les groupes anarchistes et révolutionnaires très actifs en Russie.
Donc c'est assez original finalement comme approche.
Oui, c'est assez original. Bon. La construction du livre elle-même est originale. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a un argot qui est facilement compréhensible. Et puis, à l'intérieur du chapitre, il y a plusieurs parties où on suit les personnages différents. On les quitte, on les retrouve à un moment tendu. Donc, on a envie de les retrouver au chapitre suivant. Donc, ça donne beaucoup de rythme. Hein. Donc, vraiment un très, très bon livre.
Bon. Tu nous rappelles le titre, l'auteur, l'éditeur?
Alors c'est je ne sais pas bien le prononcer en Corse. C'est
Franceschetti.
Oui. Benjamin, ouais. Franceschetti, si le geste est beau, la manufacture des livres.
Voilà, très bien. Eh bien écoute, merci. La prochaine fois?
Oui, alors c'est un livre de... Ça s'appelle Les Contemplés de Madame Hillier. Ça parle d'une arrestation en Tunisie. Cette femme va se retrouver dans les geôles de femmes en Tunisie. Et donc, c'est quelque chose aussi de grandiose.
D'accord, très bien. Merci.
Voilà.
À bientôt.
Allez,
au revoir. Alors, quasiment sans transition, comme on disait dans certains journaux télévisés, Frédéric, ça tombe bien, Frédéric, puisque on a parlé de l'Okhrana, on a parlé du Tsar, etc., de la Russie, moi j'ai parlé de Chalamov, toi tu vas nous parler de l'exilé russe.
Oui, je vais parler de l'exil russe. La fabrique du réfugié apatride, c'est un livre. Alors l'émigration, sujet d'une nouvelle loi actuellement, on est vraiment dans l'actualité, un sujet qui revient régulièrement dans le débat politique et ce depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. Alors ce livre m'a intéressé car en faisant ma généalogie, je suis à double titre issu d'une migration régionale suite à l'exode rural pour trouver un travail autre que le journalier et les conséquences de la défaite de 1870, mes aïeux ayant opté pour partir vers Paris pour quitter une Moselle qui allait devenir allemande. Et oui, on avait le choix, soit on restait et on devenait allemand, ou soit on partait pour de rester français. Puis en recherchant toujours dans les lignes directes de mes aïeux, j'en trouve deux, un au milieu du XVIIIe siècle et un autre vers les années 1830, qui était né en Suisse pour s'établir à Paris. Les deux venaient de Suisse. Comme quoi, nous venons tous d'autre part de ce que l'on pense et ce que l'on croit. Je parle que sur 200 ans, pour ma part, l'identité nationale est un mythe et une construction. Revenons au livre, en effet, il s'agit d'une émigration, l'émigration russe des années 1920, englobant le début de la révolution bolchevique jusqu'à, disons, le tout début 20, 22, 23, qui est, disons, une émigration forcée, donc un exil non choisi, comme les immigrants actuels d'ailleurs. Le livre est un travail historique s'appuyant sur des documents, des archives très nombreuses, qui en fait un ouvrage bien sourcé et très sérieux. L'exil est replacé dans son contexte historique, politique, géographique et démographique. Une analyse très complète de cet exil, qui est à la fois particulier et qui a de nombreuses caractéristiques communes aux différents exils, comme la répression politique, la géographie, la démographie. Pourquoi le Haut Comité aux réfugiés? Pourquoi le passeport Nansen? D'où est né le mythe du noble russe devenu taxi? Vous le saurez en lisant ce livre. Et déjà, l'État français qui régule l'entrée sur son territoire, qui peut entrer ou pas, pourquoi, selon quels critères. L'angoisse des identitaires ne doit pas d'aujourd'hui, malheureusement. Comment se sont installés, plus particulièrement, des hommes célibataires? Dans quelle région? Dans quel métier? Comment ont-ils vécu leur exil? Que deviennent-ils? En lisant ce livre, on voit que l'État et différents organismes comptent, tracent, recensent, et ce, il y a déjà 100 ans, cette obsession du contrôle. Une étude de l'exil russe qui nous amène à réfléchir sur les théories et les stéréotypes de l'immigration, de la peur sans fondement que l'on veut imprimer dans les cerveaux sur les dangers de l'immigration, du rejet de l'autre sous prétexte qu'il vient d'ailleurs. Un livre historico-scientifique, mais d'un accès et d'une lecture accessible à toutes et à tous. Je ne peux que vous conseiller et vous recommander de lire ce livre. Les références: L'exil russe, la fabrique du réfugié apatride, Catherine Gousseff, 439 pages, CNRS édition, collection Biblis. Je repasse le micro à Francis.
Merci Fred. Alors bon, effectivement, c'est la collection Biblis, j'aime bien, parce que c'est une collection de poche, donc sur l'aspect financier, c'est tout à fait accessible, et le livre que vient d'évoquer Frédéric est vraiment passionnant. Nous terminons ce parcours de livres par une promenade dans les Pyrénées-Audoises. Une couverture de livres qui donne sur une vallée, au fond les montagnes dans la brume, une lumière rasante. Voilà la couverture et le nouveau livre de Rémi Huot, « Journal d'une montagne », paru aux éditions Le Mot et le Reste en 2023. L'auteur est passionné de nature, par la nature. Il est ornithologue de formation, vous savez, ceux qui étudient et qui se passionnent pour les oiseaux. Il se tourne de plus en plus vers l'écriture, comme pour faire un message, pour établir un message sur la beauté de cette nature si fragile. Il nous invite à passer une année complète dans une montagne des Pyrénées, Audoise, donc département de l'Aude. Je connais un peu pour y avoir pas mal randonné. Elles ne sont pas très hautes, on n'est pas dans les Hautes-Pyrénées par définition, mais elles sont riches de diversité quant à la faune et la flore. En hiver, il s'installe dans un nori. Un nori, c'est-à-dire un refuge construit par des bergers pour se protéger de la rigueur de cette même nature. Vous le retrouverez d'ailleurs en photo, ce refuge. C'est une sorte de nid d'aigle. Mais pourquoi faire? Peut-être en reprenant la formule de Thoreau, vous savez, ce personnage qui a passé un temps dans une forêt aux États-Unis. Ne serait-ce pas une occupation suffisante que d'observer le progrès des saisons. Et c'est à cela que va s'attacher Rémi Huot, tout simplement regarder le progrès des saisons et nous le faire partager. En fait, c'est un hymne à la nature, un grand moment de poésie bien mené, bien écrit, avec des accents à la Élisée Reclus. Il est là-haut. Et avec lui, on s'installe, et avec lui, on regarde, on tourne les pages. Alors, l'ornithologue reprend le dessus à certains moments, hein, magnifique parade du gypaète, le vol planant des aigles, celui des vautours fauves, près de 3 mètres d'envergure. Moi, j'ai eu l'occasion, évidemment, d'en voir, c'est quand même assez étonnant de voir ces magnifiques oiseaux avec cette telle immensité d'envergure. Et plus bas, mais vous avez les mésanges, les grives lithornes et les grives mauvies. Je ne savais pas, moi par exemple, je pensais qu'il y avait les grives, point. Mais il y a des grives lithornes, des grives mauvies. Cette nuance. Et là, vraiment, c'est l'ornithologue qui nous montre, qui nous décrit. C'est très beau. Vous avez l'apparition d'un isard, vous savez, un chamois dans les Alpes, un isard dans les Pyrénées. C'est toujours surprenant, toujours au dernier moment. Ça aussi, je l'ai vécu. C'est étonnant. On tourne la tête et on se trouve face à face. Un très beau texte
je l'ai dit. On sent l'amoureux de la montagne dans ce texte. Le silence, les cris des oiseaux, c'est du vécu, ça. Il y a un silence et puis vous entendez le cri de l'aigle et on vit la fin de l'hiver. Découvrons la parade nuptiale des grands tétras. Ça aussi, c'est impressionnant. Les aigles qui protègent leurs petits et les marmottes qui commencent à siffler pour annoncer le danger de ces vautours qui pendant des heures planent en profitant des moindres mouvements de l'air. Vous entendrez les bouquetins dont les cornes s'entrechoquent dans le silence du haut de la vallée. Évidemment, tout est vivant, même la brume. Oui, je constate souvent ça, c'est que même en montagne, tout bouge. Pour qui a déjà marché en montagne, ces mouvements de brume, d'abord, sont très beaux, mais sont presque inquiétants, le risque de se perdre. Or, que va faire un urbain dans cet univers? Vous le découvrirez au fil des pages. Il y a notamment un moment de très belle et très saine philosophie. Et puis, la saison avance. Les petits grandissent. L'été remplace ce printemps si lumineux. Et là, parce qu'on est dans l'Aude, la chaleur s'impose, implacable. Là aussi, lorsque vous tournez les pages, vous avez l'impression de ressentir cette chaleur où on se dit, là, on ne marche plus, on attend que le soleil commence à baisser. Et puis, on arrive au brame. Et là, les 6, 8, 12 corps, C-O-R-S, c'est-à-dire les 12 corps, c'est les mâles les plus puissants. La puissance du souffle de la vie, c'est magnifique. La flore aussi est magnifiquement décrite, toute délicate, aux couleurs intenses, toujours plus intenses d'ailleurs en montagne qu'en plaine. J'aime aussi cette richesse dans le vocabulaire utilisé. Ce n'est pas un guide de GR, non, c'est le livre des moments où l'on s'assoit et regarde. Je dirais d'ailleurs qu'on peut avoir les deux, c'est-à-dire que, c'est une question de poids après dans le sac, mais on peut très bien avoir le guide du GR et puis avoir ce livre pour apprendre à regarder. Mais attention, un animal rare et d'une discrétion infinie apparaît le chat forestier. Une très belle page. Oh, les gens disent qu'un chat forestier, oui, mais c'est un animal qu'on voit très peu. On ne parle pas des ours dans ce livre, on ne parle pas des ours, on ne parle pas des lynx, on ne parle pas des loups. Et pourtant, ils existent désormais dans les Pyrénées, peut-être un autre livre. Passons en automne. Alors là, en automne, les couleurs sont toutes en nuances d'or. On va partir ? Non, écoutez encore, écoutez cette montagne. Dans le livre de Rémi Huot, Journal d'une montagne, aux éditions Le Mot et le Reste, publié en 2023. Eh bien, chers amis, voilà les livres que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui. C'est désormais fini au fil des pages, pour cette émission, rassurez-vous. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Nous repartons pour une nouvelle année, peut-être même pour 2 ans, comme on a déjà passé. Et là, dans 15 jours, le mercredi 27 décembre 2023, nous recevrons Sylvie Lefebvre pour un magnifique livre. Son livre, « La magie du codex », publié aux éditions des Belles Lettres. D'ici là, passez de bonnes fêtes. On se retrouvera de toute façon entre les deux. Et bonne lecture. L'équipe d'Au fil des pages vous souhaite toujours ni Dieu ni maître. Avec Léo Ferré, à bientôt et au plaisir de partager. Frédéric Léo Ferré.
Avec la peur qui prend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être.
être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombent froides sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'en peut être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qui n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
L'ayant fait appeler, lui dit à frotter, je te chasse, faut pas de fils père à l'atelier. Amour, amour, tu veux faire des folies. Amour, amour, tu nous fais bien du mal. Pour oublier, il sombra dans l'orgie. Il but du cidre et de l'urodonal. Alors à Montmartre là-haut, on le vit rouler dans le ruisseau. Pendant que d'affreux noctambules venaient tirer l'oreille à Jules. Et de son pauvre corps, les filles abusèrent. On n'est pas respecté quand on est fils père. Un soir dans une louche officine, il entra décidé à tout. Il vit une femme, une gourgandine, qu'on appelait Madame Guette au trou. Afin de faire disparaître la trace de la faute du pauvre gueux, elle lui charcuta la carcasse en se servant d'une pelle à feu. Amour, amour, tu fais faire des folies. Amour, amour, tu nous fait bien du mal. Le pauvre gars faillit perdre la vie. Hier, il est sorti de l'hôpital. Et maintenant, pâle et flétri, le ventre et les seins pleins de plis. Sur ses bastons, on peut le voir. Il est devenu fils du trottoir. Mariez-vous, jeunes gens, avant de vous laisser faire. Ne faites pas comme Jules, le malheureux fils peur.
Radio Libertaire 89.4.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Et tous, 43e émission de cette année 2023, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste, avec Sylvie à la technique. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et avec Marie-Jo qui est dans le studio avec moi. Bonsoir Marie-Jo.
Bonsoir Hélène, bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes.
Voilà, l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. On peut nous suivre sur le blog émission-femmeslibres.blogspot.com. Et puis on peut nous suivre aussi sur Facebook et Miss Cloud. Sur le blog, eh bien, on peut réécouter évidemment les émissions et avoir le programme. Mais pour ce soir, notre programme, féminicide par compagnon ou ex. Ensuite, tribune libre, l'écriture inclusive en danger. En troisième, nous recevons Charlotte Rigaud pour les éditions Talents Haut, en compagnie d'Elisabeth Bramy pour son tout dernier livre « Je ne suis pas le doudou de mon papa ». Voilà, et ensuite, on terminera avec des communiqués, des informations, des rendez-vous. Mais nous commençons par féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. En Tunisie, une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
Alors, féminicide par compagnon ou ex, 100, tout rond. C'est le chiffre recensé dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année 2023. C'est un chiffre à minima. Depuis le 1er janvier 2016, les militantes féministes anonymes du collectif féministe, féminicide, du collectif féminicide par compagnon ou ex, recense les femmes victimes de ces crimes conjugaux en France métropolitaine, mais aussi dans les dom-tom. Le collectif s'attache également à décrypter les mécanismes de ces crimes systémiques et du patriarcat. Donc le 100e féminicide, mercredi 30 août, donc c'est